les jardinières.
Le soleil de février nous fait rêver au printemps et à l'envie de sortir jardiner. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes là pour vous donner de bons conseils. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à tous nos auditeurs.
C'est Philippe qui nous partagera son savoir ce matin. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour.
Philippe Detra, vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel et propriétaire du Jardin des Senteurs. Merci d'être avec nous.
Et vous connaissez maintenant donc le rendez-vous le samedi matin. C'est le jardin qui est à l'honneur. Alors soyez les bienvenus chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, nous parlerons des semis. Comment, en partant d'une simple graine, nous arrivons à obtenir des plantes, des légumes ou des fleurs. Mais avant de se lancer dans le cœur du sujet, Philippe, nous sommes le 20 février, les températures sont douces, le soleil brille, enfin brillera tout à l'heure. C'est le bon moment pour sortir les outils du jardin.
Le barbecue, peut-être un peu plus tard. Mais les outils, oui. C'est vrai qu'on a, des températures douces, mais pas la semaine passée, quoi. Par exemple, et je me souviens, lorsque j'étais au jardin botanique, il y a 35 ans à peu près, à Neuchâtel, j'avais demandé à l'observatoire, qui nous faisait le bip 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 de midi, un petit exposé sur les températures, les plus froides et les plus chaudes. Et en fait, il nous avait sorti que le froid le plus important, en général sur 50 ans, c'était le 19 février, le chaud le plus important. La chaleur la plus importante, c'était le 19 juillet. C'était assez poilant, quoi. C'était 2 × 19. Et j'attends toujours personnellement la fin du mois de février pour m'énerver un peu au jardin, quoi.
Mais justement, Philippe, on voit les gros changements de température. Est-ce que dans notre potager, il faut avoir une attention particulière pour quelque chose quand on passe à des températures de moins 10, moins 15, à des températures comme ce week-end où on annonce quasiment 15 degrés sur la région?
Bon, en principe, non. Dehors, la nature, faut laisser faire la nature. Et puis, il faut juste pas trop s'exciter pour faire ses premiers semis. Parce que si on les fait trop tôt, les plantes vont s'allonger, elles seront trop au chaud, on ne pourra pas les sortir, et puis elles vont mal pousser, quoi.
Et on en parle d'ici quelques minutes. Mais des semis, justement.
Notre professionnel est donc là pour répondre aussi à vos questions jardinage et vous aider au mieux au jardin. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, vous pouvez le faire par téléphone au 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS également, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières. Et là, vous pouvez même y joindre une photo.
Les jardinières.
Ce mois de février nous donne un avant-goût de printemps, de renaissance. Il est temps de penser à nos futures plantations. Et pour imaginer avoir de beaux légumes, il faut commencer par les graines. Ce matin, Philippe, vous allez nous expliquer comment réussir nos semis. Déjà, qu'est-ce qu'un semis ?
Semis, c'est c'est faire des bébés avec des graines. Hein, donc les plantes font des fleurs. Je vous apprends rien. Et puis si elles font des fleurs, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour faire des graines. Voilà, donc elles font des bébés pour qu'elles s'hybrident entre elles. Et puis lorsqu'on prend ces graines, eh bien ça va nous donner des nouvelles plantes. Voilà, donc Le jardinier, il fait des bébés tout le temps, quoi. Comme j'aime bien le répéter, quoi.
Et vous nous le disiez il y a quelques instants, alors le semis, c'est important, mais pour être sûr d'obtenir un bon résultat, vous en parliez il y a quelques instants, que conseilleriez-vous pour débuter dans les semis? Est-ce que c'est plutôt les légumes, les fleurs ou les herbes aromatiques?
Ça dépend.
On va prendre un jardinier débutant, par exemple, ouais. Premier semis de sa vie. Qu'est-ce que vous allez lui dire de semer pour être sûr d'avoir un résultat?
Les radis, par exemple. Voilà, semer des radis, mais pas trop tôt. Semer des radis, ça pousse bien, ça... Voilà. Alors, il y a un truc vraiment auquel il faut faire attention. Et la plupart des gens n'y prennent pas garde. Par exemple, vous prenez un radis ou une carotte, c'est un certain diamètre, vous êtes d'accord. Mm-hmm. Voilà, donc, eh ben, il ne faut pas mettre les graines plus proches, trop proches d'elles, parce que sinon, elles vont se grimper dessus. Voilà, donc il faut avoir un tout petit peu d'anticipation sur le diamètre de la plante que la plante va prendre.
Et pour les jardiniers plus aguerris, des semis à proposer, histoire de mettre un peu de challenge au potager.
Oups, je sais pas, challenge, le challenge, ça dépend toujours de ce que le jardinier va apprécier le plus. Donc on peut semer des choses. Moi, il y a des choses que j'ai arrêté de semer, que je fais d'autres manières. Je fais des boutures parce que je sais que c'est un petit peu... C'est pas toujours à 100% quoi, la germination. Ça. Et puis, il faut vraiment assurer une humidité puis une chaleur constante. Ça, c'est important. Sinon, pas d'humidité, pas de germination, pas de chaleur, pas de germination non plus.
Très bien, merci Philippe. Après avoir fait le choix des semis, il faut du coup avoir du matériel, par exemple des contenants, pour débuter. Donc, quoi mettre ces semis? Quel est votre conseil, Philippe?
Ça dépend là aussi de la quantité que l'on va faire en jardinerie, c'est-à-dire dans un jardin, un établissement horticole. On va semer peut-être plus que 100 ou 200 ou 300 ou 1000 graines pour en avoir tout autant à planter par la suite. Après, dans le privé, peut-être juste 2-3 plantes, ça suffira. Donc, il faut prendre un contenant qui est adapté à la quantité de graines. Par exemple, dans un petit pot, ça suffit. Au jardin Botte, lorsque j'y bossais il y a longtemps, on faisait des toutes petites quantités, mais une quantité de variétés.
Est-ce que vous parlez de petit pot? On peut prendre un vieux pot de yogourt ou... C'est égal, la matière? Par exemple, on peut planter dans des boîtes à œufs, dans des...
Tout à fait.
Tout ce qu'on veut.
Tout à fait. Il faut juste s'assurer qu'il y ait un trou pour que l'eau, en excès, puisse s'éliminer. Sinon, ça va pourrir.
Remplissons maintenant nos contenants. Comment choisir le terreau?
Alors, le terreau doit être toujours adapté à la taille des graines. Vous semez une noix de coco qui est aussi une graine, hein, c'est quand même assez volumineux. Eh bien, il va vous c'est pas nécessaire d'avoir un terreau très fin, parce que voilà, c'est la noix de coco, c'est quand même pas très fin comme graine. Par contre, si on travaille avec des bégonias, des bégonias semperflorens qu'on trouve dans tous les massifs estivaux des villes et des jardins, eh bien, c'est 80 000 graines dans un gramme. C'est de la poussière. Donc, vous devez adapter la structure du terreau à la taille de la graine. C'est assez simple, en fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui va semer des bégonias.
Et justement, en parlant de graines, il est parfois conseillé de les faire tremper 24 heures dans l'eau avant de les semer. C'est un bon conseil?
Alors ça, c'est valable pour certaines graines qui ont, enfin, je vais utiliser un terme, le tégument. Les téguments, donc c'est la peau de la graine qui peut être relativement solide, comme par exemple les bananiers. Si vous semez des graines de banane, eh bien effectivement, faudrait les faire tremper 24 heures dans de l'eau tiède pour ramollir ces téguments. C'est la même chose pour les cyclamens ou des asparagus qui sont des asperges d'appartement.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Philippe Detra, nous apprenons à semer. Dans la première partie, nous avons parlé du matériel nécessaire et des plantations. Il est grand temps de semer nos graines. Philippe, semer, ça paraît simple comme ça, mais y a-t-il des pièges à éviter? Je parle par exemple de la profondeur où mettre la graine, ou vous l'avez dit tout à l'heure, en mettre trop n'est pas une bonne idée.
Alors, pas trop serré, effectivement, il faut un petit peu anticiper leur croissance pour leur laisser un petit peu de place pour pousser. Et puis, au niveau de la profondeur, vous avez raison, Mylène, c'est un truc assez important. En général, on ne recouvre pas plus que 2 à 3 fois la taille de la graine. Voilà. Par exemple, vous prenez un bégonia semperflorens qui est vraiment de la poussière, on ne la recouvre pas du tout. Prenez, je sais pas, une graine de pétunia ou de tagette, vous pouvez mettre 2 à 3 mm de terre par-dessus.
Merci Philippe. Est-ce qu'il faut aussi arroser généreusement une fois que les graines sont dans la terre ou bien il faut laisser un peu faire la nature ?
Alors là aussi, au niveau de l'arrosage, c'est assez délicat. Si je reviens sur le bégonia qui est extrêmement fin, minuscule, quoi. Eh bien, on ne va pas l'arroser par-dessus, mais on va l'arroser par imbibition, parce que c'est des graines très fines. Donc, on va mettre le récipient dans lequel on a semé les graines, on va le mettre dans un fond d'eau, mais pas beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas non plus créer un tsunami pour que la flotte passe par-dessus. Donc, on va éviter d'arroser par-dessus pour éviter justement d'avoir des trombes d'eau, voilà, sur les graines. Après, si c'est des graines un petit peu plus importantes au niveau de la taille, on peut arroser par-dessus, c'est pas un problème. Mais il faut les garder humides.
Les graines sont plantées maintenant, les contenants sont prêts. Où est-ce qu'on les laisse pour attendre que ça pousse ?
Alors, en principe, ça germe la chaleur. Donc, il y a des graines, en général, on tourne autour des 20, 22 degrés. Ça veut dire qu'il faut en appartement, ça va très bien, hein, puisque c'est à peu près les températures d'appartement. Mais ensuite, il faut les déplacer. Dès le moment où ça germe, on doit les mettre dans un endroit un petit peu plus frais. Et certaines graines, par exemple, une gueule de loup, que tout le monde connaît, je pense, elle va germer très bien à 22 degrés, mais elle va germer trop vite. Donc, on va lui donner à peu près 15 degrés.
C'est justement ce qu'on appelle un peu le repiquage, puisque on le sait, hein, dans quelques semaines, les températures seront encore plus douces. On va devoir déplacer, comme vous le disiez, Philippe, les semis en extérieur. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste, le repiquage ?
Alors, juste pas en extérieur, hein, parce que c'est un petit peu violent quand même. S'il fait on est dans des températures extérieures de 2, 3, 4, 5 degrés le matin, ça va être un petit peu rude quand même pour des bébés. Donc, c'est là que, en fait, l'horticulteur, il est équipé pour faire ce genre de travail. Donc, il a des serres chaudes, des serres tempérées, des serres froides. Et puis, il va beaucoup travailler. C'est un remue-ménage perpétuel en déplaçant les cultures, alors que c'est très difficile de le faire en appartement.
On va peut-être revenir sur ce terme de repiquage dans quelques instants. Comment ça se passe exactement pour bien expliquer aux gens qui, comme moi, n'ont toujours pas compris ce que veut dire ce mot.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières. Si vous avez manqué la première et notre discussion sur comment réussir vos semis, vous pourrez nous réécouter sur notre site dans la matinée. Nous sommes en compagnie de Philippe Detra, horticulteur bio à Neuchâtel et propriétaire du Jardin des Senteurs.
Et puis, question semis, vous n'avez pas tout raté puisqu'on va en continuer à en parler d'ici quelques instants. Et puis, on attend toujours vos questions jardinage par téléphone au 0970 20 20, par SMS. Vous tapez également jardin, espace, votre question 939 ou par formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Avant la pause musicale et inforoute, Philippe, nous parlions de repiquage. Mmh. Alors peut-être juste nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce fameux repiquage.
Alors c'est le fait de prendre des jeunes plantes qui germent et de les mettre dans des récipients un poil plus grand. Voilà, c'est exactement comme avec nos chaussures. Voilà, y a personne qui imagine de vivre encore dans les chaussures de bébé qu'on avait. Donc on change de récipient, donc de chaussures, voilà, à la plante. Et puis ça lui permet aussi de se développer et de faire une motte qui sera pleine de racines qu'on mettra ensuite dans un pot plus grand qu'on appellera en potage.
Et puis, il y a le passage en extérieur, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller de près quand on fait passer un semis de l'intérieur à l'extérieur ?
Ouais, alors, toujours, je parle de bébés, toujours. Donc, on doit les habituer gentiment à avoir des conditions un petit peu plus rudes. Voilà, par exemple, je reviens sur le bégonia, qui est une plante qui est extrêmement fragile. On la sème en serre chaude, après on l'habitue gentiment, progressivement, durant tout le printemps à avoir des conditions un poil plus dures, c'est-à-dire un petit peu mieux aérées, plus au soleil. Et puis, en fait, c'est des plantes qui vont finir sur des tombes, peut-être, des endroits assez rudes, parce que ce n'est pas arrosé tous les jours.
On a parlé ce matin des semis, alors ça a l'air sympa à faire, quand même un peu difficile. C'est une belle joie de voir sa graine pousser et finir en légumes. Pourquoi ne pas choisir simplement un planton finalement, donc la petite plante qui est déjà prête
Alors tout simplement parce que personne, pas tout le monde est équipé pour pouvoir faire des semis qui se passent correctement. Faire germer une graine, c'est pas compliqué. C'est s'en occuper par la suite. C'est comme faire un bébé, hein, c'est pas très compliqué.
Après, c'est l'éducation qui vient derrière.
c'est la suite qui est un petit peu plus dure, quoi, parfois. Donc c'est exactement la même chose pour les plantes. Donc voilà. Pourquoi pas prendre un planton? Peut-être pour faire vivre les jardiniers qui sont plus équipés et qui font ça très bien.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Il est grand temps de répondre à vos questions. Nous avons reçu une question de Jeanne de Delémont qui vous pose la question suivante. Philippe, pouvons-nous déjà mettre en terre les oignons de dahlia et les griffes de renoncule et à combien de profondeur? Merci. Alors on va prendre dans l'ordre. Est-ce qu'on peut déjà mettre les oignons de dahlia? Ça s'écrit. Et bon, pourquoi?
Déjà, c'est pas des oignons. Excusez-moi de vous perturber là-dessus. C'est pas des oignons, c'est des racines tubérisées. Donc, c'est un peu comme des grosses patates ou un peu allongées. Enfin, il y a jamais tout qui est noir ou blanc. Il y a plein d'intermédiaires dans ce genre de racines à réserve. Non, les dahlias, il faut attendre début mai. Début mai, pas avant. Parce que si ça sort trop vite du sol et qu'il y a un petit coup de gel, eh bien les dahlias vont y passer. Quoi.
Et pour les griffes de renoncule?
Là, c'est plutôt l'automne. Voilà. Donc ça dépend toujours de la plante et de sa capacité de résister au froid.
Et j'ai oublié de vous demander pour la profondeur sur les tubéreux de dahlias.
Ouais,
quelle profondeur
alors... Quelques centimètres de terre par-dessus, ça suffit. C'est pas des plantes extrêmement compliquées.
Bon, on remarque que Janine a un petit peu de marge hein, quand même, puisqu'on voit qu'on n'est pas trop dans la bonne période, non. Tant pour les dahlias que pour les griffes de renoncule. Je vous propose d'enchaîner avec cette question de Muriel. Bonjour, j'ai un petit poulailler et j'aimerais mettre des plantes assez résistantes. Quelles plantes me conseilleriez-vous?
Les poules, elles bouffent tout. Hein. Donc, ça mange tout. Il y a les orties, je crois qu'elles n'aiment pas trop. Mais peut-être qu'il faut poser la question à Mylène, parce qu'elle a des poules. Donc.
Alors, effectivement, les poules mangent tout. Et les orties, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez les couper après, les faire sécher et leur donner. Ça leur fait du bien.
Okay.
Elles mangent les orties séchées, mais pas les orties fraîches. Alors, un poulailler, non, ce n'est pas un endroit où on va planter des choses. Ou alors, comment on appelle ça? Des hautes tiges?
Oui, des arbres.
Voilà, des arbres.
Ouais,
ou des arbustes.
Comme le mûrier, mais il ne va pas dans tous les climats. Le mûrier fait des murs, les vrais murs. Les vrais murs de chez murs. Quoi. C'est délicieux en plus.
Et si elles sont bien hautes, on pourra les manger sans que les poules les aient volées.
Exact.
Avant.
7h, 8h, les jardinières.
7h49 chez les jardinières. Nous avons une question pour vous, Philippe. Nous aimerions des tulipes dans notre jardin. Est-ce le bon moment pour planter les oignons? Est-ce que nous pourrons déjà avoir des fleurs ce printemps?
Alors, les tulipes, normalement, c'est des bulbes que l'on plante en automne. Donc, elles doivent subir aussi une certaine période de froid en plein terre. Et donc, vous pouvez acheter des tulipes chez les jardiniers, quoi, chez des horticulteurs, qui vont vous vendre ce printemps des tulipes déjà en pot et qu'ils ont, eux, plantées en automne.
Super, merci beaucoup Philippe. On vient de recevoir à l'instant une question via notre formulaire de la part de Christian. Alors, je vous lis la question. Bonjour, j'ai des souris qui mangent les racines des arbres fruitiers et je souhaiterais savoir comment je peux éviter ce problème. J'ai un arbre qui n'a plus beaucoup de force suite à ses rongements et j'arrose beaucoup pour qu'il reprenne de la force le printemps et à l'automne. Il y a une autre solution pour que l'arbre reprenne de la force plus rapidement. Je vous remercie d'avance. Et à bientôt.
Alors là, c'est un coup bas, hein, le coup des souris, parce que moi, je suis pas très souris. Je vais vous proposer de prendre des chats. non, mais je vois que ça, hein, j'entends. Voilà, c'est vraiment un gros problème, les rongeurs, qui ne sont pas forcément des souris. Hein, ça peut être des campagnols, ça peut être des musaraignes, ça peut être plein de choses, que les chats ne vont pas tous apprécier d'ailleurs.
Mais il y a une solution, justement, après le passage d'un rongeur, pour que l'arbre reprenne de la force, ou bien justement, comme le fait Christian, l'arroser est une bonne chose.
L'arroser, ça va juste lui amener de l'eau, enfin, trop d'eau, par exemple, on risque de faire pourrir les racines. Et puis, éventuellement noyer les galeries, peut-être, mais je suis désolé, mais... Là, je suis un petit peu dans le cirage avec les souris.
Christian vous conseille de prendre un chat. Les jardinières, c'est votre émission jardinage.
Et conseils animaliers.
Et conseils animaux, on a parlé poules et chats.
7h, 8h, les jardinières.
Les dernières minutes des jardinières de ce samedi 20 février.
Exactement, et on a quelqu'un qui a osé prendre son téléphone pour poser sa question à notre professionnel ce matin. C'est Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Votre question pour Philippe.
Alors, j'avais une question pour Philippe. J'ai des orchidées, et sur mes orchidées, j'ai de la cochenille farineuse.
Oups, d'accord.
Ainsi que sur d'autres plantes, j'ai une hoya aussi qui en a. Ouais. Comment m'en débarrasser?
Alors, la cochenille farineuse, c'est comme un puceron avec une carapace. Donc, c'est un insecte que l'on peut combattre avec des insecticides. Mais le mieux, c'est d'utiliser de l'huile de colza que vous n'allez pas acheter à la Migros ou à la Coop. L'huile de colza, c'est une préparation spéciale que vous trouverez dans des jardineries et que vous pouvez pulvériser sur la plante et ça va étouffer la bestiole qui va crever ensuite par la suite. Voilà, donc c'est la seule façon un petit peu rude de s'en débarrasser. Ou alors vous prenez des Q-tips avec de l'alcool à 70 degrés et puis vous enlevez chaque bestiole avec le Q-tips. C'est le plus simple.
Ouais, parce que ça fait plusieurs mois. Je dirais bientôt une année que j'en ai et j'arrive pas à m'en débarrasser.
Ouais, alors donc ça veut dire qu'il y en a pas mal. Moi, c'est vraiment une cochonnerie, ces bestioles.
Je ne l'ai pas sous le robinet, sous l'eau.
Ça suffit pas.
Pour enlever.
Ça suffit pas. Il faut utiliser soit du savon noir pour aussi les étouffer, ou alors ce produit, je ne sais plus exactement le nom, l'huile de colza que vous trouvez. Ah ouais, je crois que c'est du génol exactement. Ça, c'est le nom commercial. Alors c'est assez efficace, mais il faut le faire plusieurs fois parce que c'est pas très méchant comme produit.
D'accord.
Merci beaucoup Sophie pour votre appel en tout cas.
Merci beaucoup.
Un tout bon week-end, merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à nos questions. Peut-être rapidement nous dire, mais très vite, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end au jardin?
Bronzer.
Je vous stresse. Griller une saucisse.
C'est vrai que je ne m'attendais plus à cette question. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors justement, comme vous l'avez proposé tout à l'heure, préparer les outils. Là, on peut faire des choses. La dernière fois où j'étais là, il avait énormément plu, donc j'avais conseillé de rien faire du tout. Mais là, le temps est sympa, vous pouvez tailler des arbustes, mes parents le faisaient hier, par exemple. Tailler des arbustes, mettre un petit peu d'ordre, nettoyer le jardin, préparer le jardin.
Merci en tout cas beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel et propriétaire du Jardin des Senteurs. On vous souhaite un tout bon week-end.
Merci Philippe.
Séparément.
Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Bon week-end à toutes et à tous et prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.